ma mère vivait à 3 heures de Montréal. Là, j'allais plus à Los Angeles. Puis des fois, je pouvais pas rester trop longtemps, c'était trop fatigant. Fait que des fois, je pouvais faire un aller-retour la même journée. Mmh. Je partais le matin, je passais la journée, je revenais le soir pour passer le plus de temps possible avec elle.
Elle habitait avec mon frère, ma mère. Mon frère, à un moment donné, il trouvait ça très lourd. Moi, j'allais la voir à peu près 3-4 fois par semaine. Elle habitait à Notre-Dame-de-Grâce. Donc, c'est à peu près 45 minutes de chez moi. Mmh. Aller 45 minutes de retour. Donc, ça commençait à être quand même assez difficile. Mon frère, c'était difficile aussi pour lui, avec les pertes cognitives.
Les gens que nous accompagnons, puis je m'identifie parmi ces gens-là, c'est qu'on a vécu des traumas de guerre. On a vécu tellement de difficultés.
Il ne faut jamais l'oublier.
Il ne faut jamais l'oublier. Puis ce n'est pas des choses qu'on peut oublier, par
choix. C'est dans votre chair, c'est dans votre corps.
C'est dans nos bagages. Puis on arrive et sur ces obstacles, on rajoute le poids de proches aidants.
Bonjour, ici Marine Orsini et bienvenue à Des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants, qui est produit, comme vous le savez, par l'Appui pour les proches aidants, notre 5e saison. Cette semaine, nous explorons une réalité que vivent de nombreux proches aidants. Beaucoup de monde, c'est leur réalité, hein? Accompagner quelqu'un qu'on aime quand les kilomètres nous séparent. Alors, comment rester présent quand on vit loin, quand on habite loin? Comment maintenir le lien malgré la distance? Et si on parle d'immigration aussi, hein, les différences de culture, comment naviguer entre deux cultures quand vient le temps de prendre soin de nos parents? Et pour en parler, je reçois le comédien Yannick Truesdale, qui a accompagné sa mère atteinte de Parkinson pendant 15 ans depuis Los Angeles. Il habitait les États-Unis. Alors, l'entente, c'était un appel par jour sans exception. Habib Elhaj, lui, vit les défis d'accompagner sa maman entre deux langues et deux cultures. Et il y a aussi Lisa Mesrob-Shahinian de l'organisme Haidun qui va nous éclairer sur les réalités particulières des familles immigrantes dans la proche aidance. Bel épisode. Bienvenue au balado des proches aidants. J'ai le plaisir d'accueillir d'abord et avant tout un comédien qui partage sa vie entre les États-Unis et le Québec depuis maintenant 27 ans. Mais malgré tout, il a trouvé un moyen d'accompagner sa maman atteinte de Parkinson tout au long de cette période-là qui a duré environ 15 ans. Yannick Truesdale, bonjour.
Salut.
Merci.
C'est un peu plaisir.
D'être là, t'es fin parce que même que tu me disais, ben, je t'ai arrivé un peu d'avance cette année parce que j'arrive toujours plus proche de Noël.
Ouais.
Fait que t'es là, puis on est très, très content que tu sois avec nous.
J'aime l'occasion de parler d'une expérience que c'est rare qu'on a l'occasion, en fait.
Exactement. Puis tu sais, je me disais en préparant notre rencontre, déjà, le défi de déménager ailleurs dans une vie, tu sais, partir de tes racines, aller t'ancrer ailleurs, c'est déjà un grand défi. Oui. Mais j'imagine que quand ta mère ou ton père, ta famille, un membre de ta famille est malade, c'est un défi fois mille.
Oui, mais c'est sûr que quand je suis déménagé, ma mère est en santé.
Oui.
C'est ça, 27 ans. Ma mère est décédée il y a 3 ans, puis elle a été malade pendant 14 ans. Donc, j'ai eu un gros 10-12 ans à vivre à Los Angeles où est-ce qu'elle était en santé.
C'est sûr. Parle-moi de ta mère, parce que dans la recherche, juste avant qu'on commence, je te disais ça, elle avait l'air d'être un personnage, ta
maman.
Elle a une femme bien avant-gardiste.
Ouais,
là.
Vraiment une hippie des années 70. Ah, vraiment, vraiment, 100%.
On elle est décédée à quel âge?
Elle allait avoir 75.
OK, quand même. Et c'est en 2022 qu'elle est décédée.
C'est ça, oui.
Alors, parle-moi d'elle.
Oui, on était végétariens quand j'étais jeune. Elle a enseigné le yoga pendant 45 ans, alors que personne ne faisait du yoga. On recyclait à la maison quand j'étais enfant. Elle me faisait écrire des lettres au premier ministre pour le désarmement nucléaire. J'avais 5 ans.
Mais voyons donc!
Oui, non, non, ma mère était très, très, très en avance sur tous les plans sociaux. Et sa mission de vie, ça a toujours été, c'est ça qui est un peu ironique des fois de la vie, sa santé physique et spirituelle. Elle a fait ça toute sa vie. C'est une artiste. Elle peignait, elle a fait de la photographie, elle a fait des vêtements de cuir, elle faisait de la sculpture.
Et c'est quelqu'un qui bougeait beaucoup. Qui déménageait souvent.
On a vécu en coop avec du monde. Le monde était tout le temps tout nu.
Toi, t'as grandi tout nu,
moi, j'ai grandi tout nu. Ça fumait du pot. Là, j'étais comme... Puis là, peace and love, là, mais all the way. Puis là, à un moment donné, je voulais jamais amener mes amis à la maison parce que j'avais honte. Puis ma mère.
En même temps, t'avais la mère la plus cool au monde.
Ouais, mais quand à cet âge-là, elle était pas cool, elle était weird.
C'est ça.
Et elle était blanche. Ma mère est blanche, mon père était noir. Donc, les gens associaient jamais, quand on était publiquement ensemble, que c'était ma mère.
Ouais.
Fait que j'étais toujours avec cette blonde. Ma mère avait les cheveux longs, blonds, les yeux bleus. Fait que, tu sais, je me souviens, elle faisait des classes de yoga, en fait, elle faisait son yoga. À un moment donné, on vivait à la campagne, sur le terrain, en face de la maison. Fait que quand l'école, l'autobus scolaire venait me chercher,
elle faisait
ses pauses de yoga, de salut au soleil, et les enfants, là, tous les élèves riaient de moi.
Oh, fait que ça quand même, on rit, là, mais ouais. Ça a dû être difficile.
Non, très
quand
difficile.
Même.
Oui, très difficile.
Puis ça m'a touché tantôt, parce qu'avant qu'on commence, encore une fois, on avait amorcé notre échange, mais ouais. Tu dis qu'à un moment donné, cette instabilité-là, parce que ouais. Vous bougiez souvent, c'est toi qui as demandé d'aller vivre avec ta grand-mère. Toi, tu cherchais ouais. De la stabilité.
Moi, je voulais de la stabilité. Un enfant d'instinct comprend que des balises, des règles, une stabilité, ça te sécurise, en fait. Et comme on déménageait tellement souvent, à un moment donné, ma mère, ma première année de secondaire, elle dit, on s'en va en Inde. Qu'est-ce qu'on s'en va en Inde? Ben, elle dit,
parce que moi, je m'en vais à l'école.
Oui, c'est ça. Mais non, elle avait booké un voyage en Inde pendant 8 mois. Fait que c'est moi qui ai dit, ben, je ne vais pas, maman, voyons, j'ai de l'école, c'est ma première année de secondaire. Ben, elle m'a dit, oui, mais l'école, il y en a que c'est pas tout, là. Tu vas apprendre autant. Mais wow. Elle avait raison d'une certaine façon.
Ben oui, mais pas toi.
Mais moi, non.
C'était déstabilisant.
Ben non,
pour
c'est
toi.
Ça. Fait que je
mais
tu
étais quand même assez mature
ouais.
Pour dire non, à ta minute, là, ouais. Moi, ça me crée de la.
Je me sens pas
stable.
Bien.
Ouais,
exact.
Ouais,
ça m'a en fait, quand t'as une mère comme ça, j'avais pas de père. Quand t'as une mère comme ça, tu deviens vite l'adulte dans la relation. Ouais.
Puis dis-moi, parce que. Partir justement vivre à Los Angeles, parce que tu travailles à Los Angeles, tu es un acteur à Los Angeles, ouais. On te connaît dans certaines émissions, dont j'oublie la fameuse émission...
Gilmore Girls,
ouais. Exactement. Ça, ce départ-là, quand tu lui as annoncé que tu t'en allais vivre aux États-Unis,
ouais.
Ça l'a pas bien surpris.
Non, ma mère...
OK.
Ma mère était tout le temps vivre et laisser vivre. Ah, ben j'espère que ça va être le fun. En autant que j'étais heureux. Fait que le souci qu'il y a eu, c'est qu'au bout d'un an, j'étais pas heureux à Los Angeles parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de travail. Fait que là, j'étais comme en mini-dépression, je pleurais tout le temps. Fait que là, ma mère, elle a dit, ben
tu
là.
Tu t'en viens à maison.
Ben oui, elle a dit, reviens à Montréal, là, ça va faire. Fait que je m'étais donné jusqu'à ma fête pour avoir un signe clair que je reste ou non à Los Angeles. Puis je me suis dit, si j'ai pas de job, j'ai pas de signe. Je reviens à Montréal. Puis j'ai pogné Gilmore Girls une semaine avant ma fête.
Et puis ça, c'est 7 ans, là, pendant 7 ans,
pendant
c'est ça?
Pendant 7 ans, oui, c'est ça. Fait que finalement, je suis jamais revenu. Mais je suis toujours revenu l'été.
Oui, c'est
j'ai
ça.
J'ai toujours eu une maison à Montréal. Je suis toujours revenu l'été. J'ai toujours vu ma famille l'été et à Noël. Fait que ça n'a jamais changé depuis 27 ans. Là.
Puis ta mère habitait les Laurentides.
Exact.
Et elle avait un conjoint.
Elle avait un conjoint, oui, pendant 40.
C'est ça.
5 ans, je
fait que pas. Ça changeait un peu la donne, parce que là, on va arriver justement à l'histoire du Parkinson.
Oui.
Ta mère était en couple.
Fait
que
oui,
déjà,
oui.
Ça, c'est quelque chose qui est rassurant.
Et lui,
formidable. Peut l'être, en tout cas. Oui. Et lui, formidable. Mais oui. Parlons-en, justement, oui. Donc. Comment c'est arrivé, ça, le Parkinson dans la vie de ta mère? Comment vous... Parce que c'est une femme en santé.
Super en santé. Elle a juste fait ça, manger des légumes puis du tofu.
Comment c'est arrivé?
Puis, écoute, ils ne savent pas trop le Parkinson, c'est causé par quoi, mais à un moment donné, elle avait un doigt qui bougeait puis est allée...
Comme un tremblement.
Oui, comme un tremblement sur un doigt. Elle est allée voir un médecin à Mont-Laurier puis là, lui a dit, ah, je pense que c'est le Parkinson. Et là, moi, tout de suite, de dire, wow, ben là, un instant, là, je vais t'amener à Montréal, puis on va aller voir. Puis là, j'ai tout de suite appelé Chloé Sainte-Marie, en fait, parce que je savais qu'elle s'était occupée de Gilles, puis tout ça. Puis
Gilles
j'ai fait,
Carle, la conjointe
Gilles Carle,
de Gilles
fait que j'ai fait, c'était qui son médecin, puis on a parlé beaucoup de ça.
OK.
Elle m'a donné son médecin, puis je suis allé avec ma mère voir le médecin
deuxième
de Gilles.
Avis.
Deuxième avis qui a confirmé. Le premier avis, en fait.
Fait qu'elle, c'était un tremblement. C'était sa
tremblement.
Forme. C'était la forme de Parkinson qu'elle avait, parce que celui rigide
oui,
aussi.
Tu veux pas le rigide.
Non, c'est ça. Non. Jean Baudin a eu ça. Jean Baudin, le réalisateur.
Oui, avec qui t'as travaillé, évidemment.
Beaucoup, ouais.
Non. Ça, c'était, okay. Les deux, c'est terrible, mais le pire, c'est le rigide. Si on m'a levé t'expliquer.
Okay.
Parce que tu perds toute mobilité, tu perds tout. Au moins, trembler, c'est mais ça. Tu peux continuer de marcher, tu peux continuer de bouger, tu peux marcher. Bon.
Jean, lui, est décédé là, en s'étouffant, en mangeant.
Je sais, c'est
à cause de la durée rigide, là, il s'est étouffé, puis il est décédé, mon Jean.
Quelle horreur.
Oui. Fait que donc, ça, c'est arrivé, diagnostic est tombé,
ouais.
Médication est arrivée.
Non, là, c'est un combat, parce que ma mère a jamais pris une aspirine. Ma mère, c'est une épi qui mange des légumes.
Fait qu'elle, pas question qu'elle prenne des médicaments. Oh boy, OK.
Ouais. Fait que là, il y a eu tout un cheminement à faire avec ma mère. À un moment donné, les tremblements sont devenus tellement dérangeants qu'elle s'est pliée à l'idée, puis elle l'a essayé. Mais là, tu sais, elle avait lu les effets secondaires, elle les avait toutes fois 10 parce que
psychosomatisait.
Fait que il a fallu beaucoup d'accompagnement et de ma mère avait une énorme confiance en moi. Fait que quand je la rassurais et quand je disais maman, ça va être correct là, regarde, c'est très rare que ça arrive, ça la calmait beaucoup. Puis son copain souvent m'appelait et disait « Peux-tu lui parler, s'il te plaît? » Parce que moi, ça passe pas.
Puis lui, il vivait avec.
Alors que moi, il y a beaucoup d'affaires que j'ai réussi à faire passer.
Mais dis-moi, parce que faut pas oublier, là, on est Québec, Los Angeles, oui. Là, il y a cette distance-là, oui. Puis il y a cette maladie-là qui est là puis qui a duré pendant 15 ans.
Ouais.
Donc, ça a été quoi ton lien de proche aidant? Là? Comment ça s'est vécu, toi, ton rôle de proche aidant à distance?
À distance, premièrement, j'ai appelé ma mère tous les jours pendant 15 ans.
Surtout qu'elle a eu un diagnostic.
Oui. Ça, c'était
tous les jours, peu importe où tu étais dans sa planète.
Ouais, puis je voyage beaucoup à cause de mon travail. Tu sais, j'ai tourné des séries en Australie, j'ai tourné en Europe. Décalage horaire, normalement, je m'arrangeais tous les jours, j'appelais ma mère. Et ça s'est manifesté beaucoup au début à trouver des solutions alternatives. À la médication qui, rapidement, faisait plus les effets escomptés. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, ma mère moins habile avec les ordinateurs, tout ça, parler à beaucoup de monde et lui trouver toutes sortes de... Comme l'acupuncture l'a beaucoup aidé.
Je crois ça.
Ces tremblements-là, pendant 4-5 jours après l'acupuncture, ça lui faisait beaucoup de bien.
Tu vois, c'est bon, ça nous donne des bons conseils aussi.
Puis, mais évidemment, là, plus ça allait, plus...
Ça devient pas mieux à chaque jour, on s'en va pas vers mieux.
Ça peut être long parfois, mais
on s'en va vers...
Puis à un moment donné, le pire vient vite, puis là, ben...
Mais ça a été comment, justement, là? C'est quoi, les 2-3 premières années, puis après ça, au bout de 5 ans,
Je dirais que les 5 dernières années, vraiment qualité de vie, elle pouvait plus conduire, tout ça, tout ce qui était indépendance, elle l'avait plus.
Comment elle l'a vécu, ça? Parce que c'était une femme libre,
ouais.
Ta mère, hein?
Je pense qu'il y a eu beaucoup il y a eu une longue période d'acceptation. Je pense que ma mère, elle l'a jamais dit en mots. Mais je l'ai senti en énergie, c'est senti un petit peu trahi par la vie. D'avoir tant investi dans sa santé et que ça ne rapporte pas plus que ça.
Mais en fait, on peut regarder ça de deux façons.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est facile à dire, elle n'est plus là, mais
ouais.
En même temps, le fait qu'elle était tellement en santé, ça a probablement ralenti la maladie.
C'est ce qu'elle m'a dit.
Hein, moi, je pense.
Puis on a déjà parlé de l'absurdité de qu'elle, elle est ça. Puis elle m'a dit, tu sais, tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les thérapies, je sais pas combien de seminars, puis d'affaires, puis de méditation à la pleine lune, puis de cheminement spirituel, puis tout ça. Elle dit, j'ai tout aimé ça. Puis manger comme j'ai mangé, puis ça, j'enlèverais rien de ça. J'ai eu du plaisir à faire ça. Donc, il n'y avait pas de regret là. Ça, ces choix de vie-là étaient très en paix et en harmonie avec ça, malgré les circonstances, en fait.
Est-ce que tu te permettais, Yannick, de revenir peut-être plus souvent quand tu le pouvais, j'imagine?
Oui. Surtout à la fin, surtout quand elle a décidé de demander l'aide médicale à mourir.
Je m'en allais là.
Oui, c'est ça. Là, tu as un rendez-vous avec la mort. Là, tu as une date, le 12 octobre à 15 heures. Fait que là, tu peux pas te mettre la tête dans le sable. Tu sais exactement quand et où.
Tu voulais pas ça.
Je voulais pas ça au début parce que ça faisait plusieurs années qu'elle en parlait.
Quand même, hein?
Ouais.
Fait qu'elle était très consciente, très ouverte aussi à quelque part.
Ouais.
Hein?
Puis de vouloir un peu avoir le contrôle. La perte de contrôle est très, très compliquée à gérer, je pense, pour eux. leur autonomie et tout ça. Fait que ça, c'était comme une façon de reprendre le contrôle. Mais moi, l'année où elle en parlait beaucoup, je me suis retrouvé à aller tourner en Australie. Puis là, elle a arrêté d'en parler parce qu'elle s'est dit, il n'est pas là, il ne peut pas être là.
C'était mais toi,
pas...
tu as essayé de la dissuader. Là.
Moi, j'essayais de lui trouver...
faire changer d'idée.
Ouais. En fait, c'est que j'essayais, je réalisais que quand elle parlait de ça, il y avait du... Elle était face à un mur, elle ne voyait plus d'options. Et pour elle, c'était... Puis aussi de décharger son copain. Parce qu'elle voyait bien...
Que la charge le poids, pour
le
son
poids.
Aidant.
C'est ça, son aidant.
Lui, il était première ligne, toi,
oui,
t'étais en deuxième ligne.
Ligne oui. Donc, il y avait toute cette culpabilité-là. Fait que moi, j'ai suggéré des centres. Je suggérais plein d'autres options pour voir est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou ce que tu veux, c'est libérer Conrad. Est-ce que tu veux toujours vivre? Il y a eu beaucoup de conversations.
Toi, tu étais l'avocat du diable.
Ouais.
Quelque part, tu
ouais,
jouais dans...
Ouais.
Ouais.
Je la faisais réfléchir sur les motivations. Je ne voulais pas qu'elle regrette ce geste-là. Je trouvais que c'était un gros geste. Je voulais être sûr qu'elle le fasse pour les bonnes raisons.
Ouais. Puis Conrad, parlons-en, parce ouais. que tu dis, lui, a attendu trop longtemps.
Ouais.
Parce que lui, c'était son proche aidant, c'était ouais. son conjoint. Puis il voulait tout faire seul.
Il voulait tout faire seul. Et le problème, en plus du Parkinson et de la... des tremblements et tout ça, les médicaments donnent des hallucinations.
OK.
Ça, c'est connu. Mais ma mère s'obstinait à penser que ces hallucinations n'étaient pas des hallucinations.
Elle disait que c'était quoi?
Elle pensait que c'était vrai.
OK.
Fait que le soir, ma mère ne dormait pas le soir. C'est là que c'était très compliqué parce que lui, il l'aidait toute la journée puis le soir, elle ne dormait pas.
Fait qu'il restait
debout. Fait
que
là, il restait debout. Fait que là, à un moment donné,
il se reposait jamais.
Ben non,
plus.
C'était pas possible. Fait que là, on a trouvé des façons avec le CLSC, ils ont envoyé des gens pour que la nuit pour accompagner ma mère.
Fait que finalement, il y a
oui,
eu de l'aide.
Finalement,
il a été obligé.
En bout de là, il a été obligé parce que là, il était vraiment rendu au bout du rouleau. Il perdait patience, il n'y avait plus de patience, il était à vif. Tu sais.
Fatigué, la fatigue.
Fatigué.
C'est comme avoir un enfant.
Oui,
hein,
c'est
quand
ça.
Quand on accouche
ouais,
d'un enfant,
ça,
là,
j'imagine. Ouais.
Tout ce qu'on a à faire, c'est pas
ouais,
un problème. C'est pas
ça.
Dormir, c'est ton histoire. Là. C'est
exact.
Ça le pire, en fait.
Exact.
Pour n'importe qui, en fait.
C'est ça.
Fait que finalement, il a accepté d'avoir de l'aide.
D'avoir de l'aide vers la fin. Ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt, mais là, qu'est-ce que tu veux? Et ouais, les fameuses hallucinations de ma mère, quand elle se réveillait, elle voyait du monde dans le salon, puis qui parlait, puis du monde pas le fun, du monde le fun, c'était tout mélangé, plein de personnages, en tout cas. Ça, c'était compliqué à gérer. Aussi, moi, je la ramenais, j'ai dit, maman, tu sais, elle disait, ouais, mais c'est des. Je pense que c'est maman qui était spirituelle puis un peu nouvelle âgeuse. Elle dit, ouais, mais je pense que c'est des esprits qui. Mais j'ai dit, maman, t'as 70 ans, t'as jamais eu de don pour communiquer avec des esprits, t'en as jamais eu dans ta. Soudainement,
fait
là,
que c'est pas ça, je
c'est
te
pas
le confirme.
Ça.
S'il pétait sa ballonne
oui,
un petit peu, là.
Mais pour lui redonner un pouvoir, parce qu'elle se sentait victime
oui,
de ces mondes-là qui la harcelaient la nuit quand elle se levait. Fait que j'essayais d'y casser cette affaire-là, mais bon, tu sais, ma voix ne peut pas être plus forte que les médicaments. Là. C'était pas de sa faute, en fait.
Puis ultimement, c'est sa vie à elle, parce qu'on parle de l'aide médicale à mourir. Là, je
c'est
veux dire,
ça.
Toi, t'étais
oui.
pas d'accord avec ça,
non.
Mais en même temps, quand t'es celle ou celui qui souffre dans ton
c'est
corps,
ça.
Dans ton esprit, il faut respecter ça,
oui.
mais c'est difficile.
Le cheminement est pour l'entourage et pour elle. Mais à un moment, tu sais, quand le choix a été fait, quand ça, je veux dire, il y avait plus de... Je résistais plus au choix. J'ai accepté le choix et j'ai fait avec le choix. Puis on a... Tu sais, ma mère vivait à 3 heures de Montréal. Là, j'allais plus à Los Angeles. Puis des fois, je pouvais pas rester trop longtemps, c'était trop fatigant. Fait que des fois, je pouvais faire un aller-retour la même journée. Je partais le matin, je passais la journée, je revenais le soir pour passer le plus de temps possible
avec elle.
Vider toutes les... Tiens, j'ai eu une enfance compliquée, c'était compliqué avec ma mère. Donc, vider tous les dossiers... pour qu'on parte...
T'as eu le temps de faire ça?
Ah, vraiment, vraiment, vraiment.
Donc, de parler,
j'ai vidé,
d'échanger.
Il n'y a pas rien qui n'a pas été nommé.
Ça t'a fait
tout
du bien,
tout a été
ça.
Nommé, ouais.
C'est
important.
Puis elle était ouverte à ça? Est-ce
oui,
qu'elle
oui.
a été blessée par
non,
ça?
Non, pas du tout. J'ai même été, avant qu'elle soit malade, j'ai même été en thérapie avec ma mère.
Wow!
Non, ma mère très ouverte. Tu sais... spirituelle, nouvelle âgeuse.
Mais ça, c'est un beau cadeau quand
oui,
même.
Oui, ça, c'est un beau cadeau.
T'as eu une mère porposante, mais qui avait l'ouverture d'entendre
capable,
ce que t'avais à dire.
Oui, oui, puis de bien comprendre qu'il y avait plein d'affaires qui n'avaient pas de sens. Tu sais, elle a donné son maximum, mais son maximum, à plein d'égards, n'était pas assez.
Ouais.
Puis elle l'a bien comprise et admise et en vieillissant, elle est devenue la mère que j'aurais voulu qu'elle soit.
C'est touchant, ça, de t'entendre dire ça. Elle est devenue la mère que tu aurais voulu qu'elle soit.
Ouais,
mais on pleure souvent ici. Mais ça fait partie du concept.
Ouais,
en
du
fait,
concept.
Ça fait du
ouais,
bien.
Ouais, ouais.
Parce que les gens qui nous écoutent, là, je veux dire, ils se connectent à toi, là, ils se connectent à nous parce qu'on se reconnaît entre proches aidants puis dans nos expériences d'accompagner des gens près de
c'est
nous.
C'est sûr.
Mais ça, c'est quand même un beau cadeau, Yannick.
Vraiment. Oui, vraiment. Puis j'ai écrit un. Comment t'appelles ça? Un hommage, tu sais, quand là, on va au cimetière, mais un enterrement de quelqu'un, on lit souvent
un hommage
et tout ça. Mais moi, je l'ai écrit et lu le matin de son décès, avant qu'elle parte.
Tu lui as lu?
Je lui ai lu.
Oh, wow! Qu'est-ce que ça disait? Tu te souviens-tu des bouts?
Ah, je pourrais pas. Premièrement, je serais incapable de parler pendant 15 minutes si je retourne là-dedans. Mais, puis ça m'a pris... 2 mois à écrire ça parce qu'à chaque fois que j'écrivais ça, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais c'était comme un hommage à qui elle était. Son chemin très unique. Et notre lien. Parlait beaucoup de notre lien.
Puis que ça a fait de toi l'homme que tu es devenu,
exact.
L'artiste que tu
exact.
Es.
Exact.
C'est sûr que ça a contribué à tout ça. Eh hein?
Mon Dieu! Oui, vraiment, vraiment.
C'est drôle, je pense à Boucard Diouf qui est venu nous rendre visite, puis... Je me souviens plus du terme qu'il utilise, mais c'est parce que ça me fait aussi penser à ma mère, à moi, là,
quand
elle est décédée, mais il disait que c'est dans leur, avant qu'ils partent qu'il faut leur dire.
Oui.
Hein, ce qu'on sent,
c'est
ce qu'ils ont été.
Oui.
Leur rappeler leur vie.
Ouais.
Moi, j'ai fait ça la veille du décès de ma mère.
Bravo.
Ah oui, ça a été.
C'est un grand moment.
C'est un grand moment. De dire à quel point j'avais été heureuse d'être sa fille, combien j'avais été fière d'être sa fille.
Ah
oui. Mais tu sais, j'ai braillé ma vie pendant une demi-heure, là.
C'est
puis à un moment donné,
c'est...
elle m'a juste regardée, puis elle m'a dit, bon, change-tu de sujet?
Ah!
Puis j'ai dit, mais.
Ouais, c'est ça, ça devient.
Puis on a mangé le petit déjeuner. Mais je trouve ça beau parce que, attends, c'est octobre 2022.
Ouais.
La date, c'était?
Le 12.
Le 12 octobre.
Ouais.
Et il paraît, donc, tu étais là, évidemment.
J'étais là, sa sœur, mon demi-frère, ma cousine.
Vous avez dansé?
On a dansé. C'était le matin, mais... La veille, en tout cas, le soir, on a dansé, j'ai une vidéo. Mais tu sais, elle n'avait pas l'énergie de danser, elle n'avait pas la... Mais je pense que l'énergie... Elle savait qu'elle partait le lendemain.
Fait
qu'il y avait comme une énergie en elle hors naturelle,
temps, là.
Hors temps. Là. C'est comme si toute l'énergie de l'univers venait l'aider vivre son dernier 24 heures. Là. Avec un peu plus de hum.
Puis elle était dans la joie. Puis il paraît que vous avez dansé
la
sur la chanson Happy.
Oui, ça c'était le matin même. Oui, on a dansé la chanson. On mettait de la musique. Ma mère aimait beaucoup la musique. Je tiens ça d'elle. Moi, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est que je mets de la musique. Et je ne sais pas, à ma mère, la joie, c'était très important. Fait que j'ai fait, ah, la tune Happy. Fait que je l'ai mis, puis là, on a dansé là-dessus, mais elle ne connaissait pas ça. Je dis, tu connais pas cette tune-là? Elle dit, ben non, je jamais entendu ça. Mais tu sais, bon, une autre génération, une autre, c'est ça. Et puis, avant que le médecin arrive, je ne me souviens plus quelle tune il jouait. Puis elle a demandé qu'on change la musique. Elle trouvait que la musique n'était pas assez intense. Elle dit, je trouve que ça, elle dit, il me semble qu'il faut une musique là. Plus intense que ça, ça marche pas là.
Puis j'étais très touchée quand j'ai lu la recherche parce qu'il paraît que ta mère, dans son calendrier, la date, c'était écrit l'envol.
Ouais. Ma mère, elle était obsédée par les oiseaux et les papillons. Fait que je pense que c'est pour ça qu'elle a mis ça comme ça.
Là, c'est moi qui vais pleurer, par exemple.
Ouais.
Dis-moi, Yannick, qu'est-ce que tu... ça a été sur une période de 15 ans dans ta vie, donc ta maman comme ça, déjà à distance, puis qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que tu retiens? Parce que ça a fait 3 ans, là, c'est comme si c'était hier.
Ouais.
Hein? Tu te sens-tu comme ça?
Ah, je me sens comme si c'était hier.
Oui, hein?
Oui.
Tu sais, moi, ma mère, ça a fait 12 ans cet été.
Puis,
j'ai l'impression que ça fait 4-5 ans que ma mère est partie.
La notion de temps.
Oui.
Bien, la mère, qu'est-ce que tu veux? On vient de là. C'est notre maison.
On vous a porté.
On nous a porté.
Vous avez poussé dans notre ventre.
C'est quand même...
C'est fort, hein?
C'est pas anodin. Fait que ce lien...
Toi, t'as senti que t'as été aimé par ta mère dans ta vie? Même malgré l'instabilité, là.
Ouais, en toute transparence, pas dans ma jeunesse.
Okay.
Je me sentais beaucoup... je vais le dire en anglais parce que ça sonne mieux que pour moi en anglais. « Afterthought ». ça, il y avait plein d'affaires dans sa vie qui l'occupaient.
Passé en deuxième.
Ouais. Ah, puis Yannick. Hey, on s'en va en Inde. C'est vrai, excuse.
J'ai oublié de te
le
dire.
Viens-tu? Ben, je me suis jamais senti important.
OK.
Une priorité.
Mais
choisi.
À la fin de sa vie.
Mais à la fin, oui, oui. Après, adulte, puis tout ça. Quand, tu sais, elle m'a eu à 21 ans, donc c'était un petit peu jeune.
Elle était jeune, elle était très jeune.
Fait que je pense qu'avec la maturité, puis tout ça, elle a bien compris qu'il y avait des affaires qui n'avaient pas d'allure, mais c'était loin d'être une mauvaise personne.
Oui, bien
ça,
non, là, tu sais, ben c'est, fait que qu'est-ce que tu as gardé de cette période-là? On pourrait quasiment dire ce 15 ans-là, mais peut-être plus les dernières années.
Ouais.
Quand tu penses à cette période-là de ta vie qui va être ancrée en toi pour l'éternité, c'est clair. Surtout avec ce que c'est devenu.
Ouais.
Hein, les dernières, les derniers moments de vie ensemble. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as appris de toi?
Ouais. il y a beaucoup de choses. Il y a des choses même contradictoires. J'ai appris que de la vie, en fait, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il faut le faire de la place qui part d'une place où ça nous rend heureux. Mais il faut ne pas s'attendre à un résultat précis qu'on ne contrôle pas.
Les attentes.
Les attentes.
On a trop d'attentes.
On a trop d'attentes.
C'est tellement vrai.
Et ça, j'ai lâché sur... Ben oui, mais moi, j'ai fait ça, je devrais avoir ça en retenir. Non, ça marche pas de même.
On sait rien. Non. On sait pas tantôt.
Et on contrôle rien. On
Exactement.
En contrôle des bouts.
Ouais.
Je pense qu'on contrôle comment on reçoit les choses qui nous arrivent, de quelle place on les prend. Ça, on contrôle ça. Mais ce qui nous arrive, je suis très ambivalent par rapport à ça. Donc ça... que la vie, c'est court.
Puis qu'en fait, avec ce que tu dis, ça me fait penser à... Ultimement, là, tout ce qu'on... C'est d'être dans le moment présent.
Exact.
Donc, ta présence...
Eh ouais, ta présence au moment
présent.
Dans ta vie,
que ce soit auprès de ta mère, dans ton amour, dans ton travail, dans tes amitiés.
Exact.
C'est juste ça qu'on peut contrôler à
quelque
part.
Exact, hein. Oui, vraiment. Ça, puis aussi, la, tu sais, vu que je vis à l'étranger depuis tellement longtemps, quasiment 30 ans, puis que j'ai une petite famille, puis que je connais pas mon père, puis tout ça. J'aime ma famille, je suis près de ma famille. Mais ils avaient pas la place qu'ils ont maintenant. Je suis...
Ça t'a fait comprendre,
oui.
Ça. L'importance
de
qu'ils ont dans ta
famille,
vie.
De la famille, ouais.
Mm.
C'est de là qu'on vient. C'est vrai que je comprenais pas avant.
C'est le terreau dans lequel on a poussé.
Ouais.
Hein?
Puis étant noir, un artiste... Ma famille est toute blanche. Fait que je me suis toujours senti un peu comme un extraterrestre.
Mm.
Mais non. Je suis pas un extraterrestre.
Mais non.
C'est ma famille.
Exactement. C'est
ça
tes racines.
Rapport. C'est mes racines, ouais.
Ouais. Moi, avec le départ de ma mère, j'ai compris qu'on mourrait un jour.
Ah, ouais.
Moi, dans ma tête de petite fille, je le dis souvent parce que ça fait tellement de sens pour moi, mais tant que ma mère vivait, l'éternité existait.
Je comprends.
Puis le jour où ma mère est décédée, j'ai compris qu'on mourait. On va tous, le saviez-vous? On va tous mourir un jour. Là. Moi, je viens de comprendre ça pour vrai, tu sais. Fait que ça teinte, hein? Ça teinte toute la suite, en fait.
Toute la suite.
Ça teinte toute la suite. Ça a fait ça pour toi aussi.
Oui, vraiment. Il y a un avant et un après.
Qu'est-ce que tu dirais en terminant, Yannick, à ceux qui, justement, vivent à distance? Il y a beaucoup de gens, là. Les parents sont au Québec. La fille est en Ontario. Le fils, il est en Allemagne. Il y a beaucoup de culpabilité qui peut venir avec ça.
Ouais. C'est tellement des circonstances qui sont différentes de fois en fois. Tu sais, moi, j'avais la chance, ma mère avait un conjoint qui était très impliqué, qui était très là. Je connais d'autres histoires de gens que dès que la personne a eu le diagnostic, le conjoint est parti. C'était trop pour eux.
Ouais, absolument.
En même temps, tu peux pas les juger. C'est trop pour toi. T'es peut-être pas mieux d'être là, en fait.
On peut
c'est
pas
peut-être
juger.
Bien. On peut pas juger. Fait que... je pense que il faut donner ce qu'on est capable de donner. Moi, je sentais que même si j'avais été là physiquement à tous les jours, j'aurais rien amené
de plus.
Mon support.
Parce que Conrad
était là.
Très présent.
Très présent, puis je palliais là où lui avait besoin de.
Toi, t'étais le recul que lui avait pas.
Exact.
Hein, il y avait de ça
puis
aussi.
Puis la voix qui facilitait plein de décisions. Parce que dans une maladie, il y a plein de décisions.
Tout le temps.
Et ce qui est compliqué, c'est que la personne prend les décisions avec qui elle est alors qu'on voudrait qu'elles prennent les décisions en fonction de nous. Moi, je voudrais, il y a des décisions que j'aurais voulu qu'elles prennent, mais ma mère n'est pas moi.
Non, tout à fait.
Et il a fallu que je respecte ses limites à elle. De toute façon, elle me l'a dit.
T'as tellement raison.
Elle a fait, garde Yannick, je comprends. Pour moi, c'est trop.
C'est bon, ouais.
Fait que de respecter les limites de l'autre et d'accepter que c'est pas mon histoire, c'est son histoire.
Puis toi, tu l'as vécu à plein, comme tu l'as vécu, comme vous l'avez établi, parce que toi, t'as pas eu de sentiment de culpabilité.
Non,
hein?
Non,
j'ai pas eu ça.
Si tu parlais à ma famille, j'ai été plus que présent. J'ai donné 1000%. Ma mère arrêtait pas de dire. J'étais très, 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 très impliqué, mais c'est ma nature. Quand j'aime quelqu'un, mes amis, si tu me dis que tu as une opération dans un an et demi, ça va être écrit dans mon agenda, je vais t'appeler la veille. Je suis très impliqué. Je suis pas quelqu'un qui fait les choses en surface. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le small talk.
Ouais.
Je suis quelqu'un qui parle plus des vraies affaires. Je vais arriver dans un souper, puis je vais vite amener une conversation un petit peu plus profonde.
T'as pas peur d'aller là. T'as besoin
non,
de ça.
Non, en fait, moi, j'ai besoin de ça. Si c'est pas c'est ça, je m'ennuie. Pour moi, c'est plus ça, la vie, en fait. Parler de la température, je peux 2 minutes, là, mais il faut que ça switch à d'autres choses.
Ouais. Je comprends. Ben, c'est une super belle qualité. Yannick, merci tellement.
Ça me fait plaisir.
Tu nous fais un beau cadeau aujourd'hui par ta présence, justement. J'ai senti que c'était... On a eu le temps un peu d'aller plus profondément, puis pas juste les grandes lignes.
Non, non.
C'est très apprécié parce que notre balado veut faire ça. C'est ça qu'on veut faire. Puis tous les invités qu'on a eus, là, c'est des gens qui nous ouvrent leur cœur puis qui nous laissent rentrer. Puis t'en fais partie dans cette 5e saison. Je te dis un immense merci.
Ça me fait plaisir.
Vraiment. Bonne route.
Merci. Merci.
J'accueille maintenant avec grand plaisir, je pense que ça va être riche comme échange, il s'appelle Habib Elhaj, qui veut dire amour et pèlerin. Alors l'amour de pèlerin, c'est formidable. Bonjour à vous,
bonjour.
Habib, bienvenue.
Je suis content d'être ici.
Ah oui, vraiment, je suis très contente. On commençait d'ailleurs à parler avant de tourner. Et votre histoire, en fait, vous êtes originaire du Liban.
En effet.
Vous êtes arrivé ici au Québec, donc à l'âge de 23 ans.
Exact.
Ça fait 35 ans que vous êtes là. Vous avez terminé donc vos études ici.
Oui.
Vous êtes le papa de 3 enfants, mais vous êtes le fils de votre mère.
Exact.
Qui s'appelle Amal.
Oui.
Exactement.
Ça veut dire espoir.
Qui veut dire espoir. Oui. Mon Dieu, c'est donc bien beau. Pèlerin, amour, espoir, il y en a plein là-dedans, je pense. Hein? Vous êtes le proche aidant de votre maman. Votre maman a aujourd'hui 84 ans.
Oui.
Et ben racontez-nous un peu son parcours, parce qu'elle est arrivée ici avec vous aussi en même temps.
Elle est arrivée après moi, après mon arrivée d'ici. En fait, ma mère est née en Turquie, pour commencer. Là.
Oui.
Elle est née en Turquie, dans la région est de la Turquie, qui est une région chrétienne, musulmane, kurde. Donc, il y a vraiment un mélange de beaucoup de groupes ethniques.
Ouais.
À l'âge de 14 ans, sa mère l'envoie au Liban pour aider sa mère, c'est-à-dire sa grand-mère.
Sa grand-mère.
Pour rester avec elle. Et c'est là où elle a rencontré mon père, à l'âge de 15 ans à peu près.
Qui,
elle
lui,
s'est mariée,
était d'origine
libanaise.
Libanaise.
Au Liban. Oui. Puis à l'âge de 16 ans, ils se sont mariés.
OK.
Elle s'est mariée. Et à 18 ans, elle a eu son premier enfant, à 22, 21 ans, son deuxième, puis 24 ans, le troisième.
Donc, vous êtes
trois garçons. Oui.
Et parlez-moi de son parcours. Et donc, elle est arrivée ici à quel moment?
Est arrivée ici.
Vous êtes le premier qui est arrivé ici?
Non, je suis le dernier qui est arrivé ici.
OK.
Oui. Au Liban, l'histoire au Liban, c'est qu'il y a une histoire de guerre civile, qui a commencé en 1975 et s'est terminée en 1990. Mm. Entre-temps, mes deux frères, les deux aînés, sont arrivés ici en 87. Donc, c'est vraiment dû à la guerre.
C'est ça.
Donc, mon frère l'aîné est arrivé le premier et ensuite, il a fait venir mon deuxième frère. Et par la suite, les deux m'ont parrainé pour que je vienne ici.
C'est fou parce que ça ressemble à l'histoire de mon père. Moi, mon père était italien. Sa famille est arrivée avec l'arrivage des Italiens après la Deuxième Guerre mondiale. Puis C'est ça qui est arrivé après. Là. Le grand-père, il vient en éclaireur, le fils arrive et l'autre, les autres arrivent. C'est un peu la même histoire, en fait.
Exact. Hein? Donc, moi, je suis arrivé, il y avait un appartement, j'avais une job le lendemain, j'avais tout, là, vraiment. Ah, oui, j'étais bien servi quand je suis arrivé.
Donc,
et ma mère est arrivée 3 mois plus tard, 4 mois à peu près. Et entre-temps, ma mère et mon père sont allés chercher un visa à l'ambassade en Syrie. Et mon père est décédé. Il a eu un accident en Syrie.
En Syrie, OK.
C'est ça. C'est là-bas, il a eu un accident et il est décédé là-bas. Et par la suite, ma mère est venue en mois de septembre. Donc, c'est vraiment quelques mois plus tard, elle est venue.
Puis, ce que j'ai cru comprendre dans la recherche, c'est que c'est suite au décès de votre père que là, votre mère, sa vie a commencé à basculer. Là.
En fait, c'est suite au décès de mon frère l'aîné.
OK.
Suite au décès de mon père, ma mère est venue. Elle était vraiment très affectée, évidemment.
Oui.
Et ici, elle s'est reconstituée, là, ouais. Vraiment avec nous. Donc, elle a pris soin de ses enfants parce qu'on était 3 gars célibataires encore. Et ça, c'est quelque chose.
OK. Oh, votre mère était pas...
Oui, c'est ça, c'est clair. Elle s'est impliquée à fond. Là.
Et votre frère est décédé?
Mon frère est décédé de la COVID, durant la période de la COVID.
Oh, OK, ça fait
il
pas longtemps.
Il est décédé
là.
Au Liban, non, c'est ça, en 2020. Et c'est là où ça a dégringolé pour ma mère. Mm. Donc, elle a été vraiment affectée. Alors, et on a ressenti vraiment un accroissement de
perte cognitive.
De perte.
Est-ce qu'elle a eu un diagnostic, là, votre mère,
récemment,
à ce jour?
Là.
Donc, c'est le Parkinson?
Non, c'est l'Alzheimer.
OK, l'Alzheimer.
C'est ça. Donc, c'est vraiment récent. Par contre, après le décès de mon frère, ce qu'elle nous disait, je commence à oublier, j'oublie beaucoup. Fait que là, on essaie de voir, mais est-ce que c'est, jusqu'à quel point c'est grave? Et petit à petit, on s'est rendu compte que non seulement elle oublie, mais elle a commencé vraiment à ne pas reconnaître où est-ce qu'elle est. Donc, tout ce qui est temporel et spatial, c'était difficile pour elle.
Puis même au niveau là, de faire de la cuisine, tout ça, là, ça devenait dangereux, je pense.
Ça devenait une grosse tâche.
Pas fermer la cuisinière.
Exact, brûler des aliments, brûler des chaudrons. Donc, c'était aussi ça.
Et votre mère, je pense qu'il y a eu une période où elle habitait avec votre frère aussi. Hein?
Oui, elle habitait avec mon frère, ma mère. Et c'est ça, mon frère, à un moment donné, il trouvait ça très lourd. Moi, j'allais la voir à peu près 3-4 fois par semaine. Elle habitait à Notre-Dame-de-Grâce. Donc, c'est à peu près 45 minutes de chez moi. Mmh. Aller 45 minutes de retour. Donc, ça commençait à être quand même assez difficile. Mon frère, c'était difficile aussi pour lui. Avec les pertes cognitives, c'était toutes ces pertes-là, surtout, par exemple, elle dort tôt le soir, mais elle se réveille des fois à 1h le matin, puis elle pense que c'est le jour. Et là, elle va aller cogner chez mon frère pour dire « Viens boire un café chez moi, là. Dormir, là. »
Alors, ça devient beaucoup, de plus en plus difficile pour vous là, de suivre votre mère.
Ouais,
là.
C'est devenu difficile.
Puis en même temps, c'est difficile parce que là, on va arriver aussi à parler de culture. Les cultures, exact. Quand même, vous êtes Québécois maintenant, vous êtes ici depuis longtemps,
oui,
mais il reste que
ça.
Les racines culturelles, on n'a pas la même façon de voir les choses, on n'a pas la même façon de faire les choses. Et chez vous, dans votre culture à la base, les parents habitent avec les enfants.
Les parents habitent avec les enfants, surtout chez les filles, par exemple. Nous, on n'a pas de filles chez nous.
Oui, oui, oui.
Donc là,
c'est la fille qui prend les parents. Pas le fils.
Le fils, c'est rare.
Mais le fils, s'il est marié, va prendre les parents de sa femme.
Exact.
Oui, oui, c'est ça dans les coutumes.
Voilà. Donc, c'est ça. Et c'était là la
difficulté.
La difficulté. Et donc, ma mère restait avec nous et avec mon frère, évidemment. Et c'est là qu'on a commencé à voir, mais qu'est-ce qui n'allait pas et comment on va trouver des services. On ne connaissait rien, là. C'est vraiment, vraiment, c'est quoi les services? On ne savait absolument rien.
Et comment vous avez cheminé dans ça? Donc, vous avez trouvé des services? Qui vous a aidé? Comment vous avez navigué à travers ça?
Bien, la première chose, on a commencé à parler avec nos conjointes. Moi, ma conjointe, elle est québécoise d'ici, elle est travailleuse sociale.
C'est une bonne référence.
Très bon départ. Puis elle m'a dit, appelle l'appui.
L'appui, vous avez appelé l'appui.
J'ai appelé l'appui, j'ai parlé
l'appui des proches aidants. Hein? C'est eux qui réalisent et qui produisent notre balado. Donc, l'appui vous a aidé.
En fait, on voulait savoir par où commencer. C'est vraiment ça. Et la première chose comme réponse, c'était d'appeler le 811. vraiment commencer par le processus là et ils vont vous guider par la suite. Et c'est ce qu'on avait fait, mais ça a été dur quand même pour avoir
un service.
Mais finalement, on a parlé avec une travailleuse sociale du 811 et ça a été super. Ça a pris quand même 45 minutes, une heure. Elle a pris du temps pour nous
jaser. Pour parler avec vous, ben ça, c'est rassurant.
Discuter, poser des questions et tout ça. Et par la suite, elle nous a dit que le dossier est rendu au CLSC. Donc, vraiment, quelqu'un va vous rappeler. Et depuis, personne ne nous a rappelé. Et donc, c'était ça aussi qui était difficile par rapport à ce type de service.
Donc, une travailleuse sociale?
Oui, mais on n'a pas eu... On a parlé seulement à la personne qui est répondante du 811. Mais le dossier qui était au CLAC, il n'y a personne qui nous a répondu par la suite pour revenir là-dessus et nous référer, par exemple, aux bons endroits. Et toute cette structure de CHSLD, RPA, RPI, tout ça, on ne savait absolument rien. Là.
Donc, elle est d'abord, parce que vous n'aviez plus le choix, il fallait trouver un endroit pour votre mère.
Il fallait trouver un endroit.
Je pense qu'elle a commencé dans un CHSLD.
Pas du tout.
Pas du tout. Alors, ça a été quoi les étapes?
Les étapes, c'est qu'on a cherché par nous-mêmes une RPA, puis on a vraiment cogné à plusieurs portes.
Ouais.
Et mon frère a trouvé une RPA à Ville-Saint-Laurent avec des personnes qui parlent le libanais, qui parlent arabe.
Ça aussi, parce que le barrière, les barrières, ben oui.
Exactement.
Et, la culture, les racines, la langue.
Tout à fait, la langue. Ma mère, elle comprend un peu le français, mais elle n'est pas capable de maintenir une conversation, mais elle comprend le français.
Non, puis on a besoin de notre langue, la subtilité, la nuance, les nuances dans nos langues, on a besoin de ça. Puis je pense que vous, votre maman, elle est en résidence semi-autonome, c'est ça, hein, que vous aviez besoin, en tout cas, au départ.
Tout à fait. Donc, c'est avec une surveillance 24 heures sur 24, parce qu'elle peut, elle peut se perdre, elle est déjà sortie à l'extérieur, puis elle s'est retrouvée à un moment donné à une station de métro, puis elle s'est faite reconduit par la police par la suite.
Une chance.
Mais on était au mois de juillet. Donc, c'est vraiment, ça s'est bien terminé.
Oui.
Et donc, là, actuellement, on a renforcé un peu la sécurité.
Donc, au moment où on se parle, elle est dans une résidence.
Oui, exact.
Avec, donc, des services.
Avec des services.
Et je pense, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle était heureuse d'être dans son appartement, d'avoir un appartement
à
elle.
C'est chez elle, oui. Elle est très heureuse d'être dans son appartement. Et récemment, lorsqu'elle parle à ses sœurs, par exemple, au Liban, ce qui revient, c'est j'ai souffert toute ma vie à cause de la guerre, les décès de mon mari, de mon fils. Et là, c'est comme si le bon Dieu me récompense.
Ah oui.
Je suis là, je suis bien entouré. Il y a des gens qui viennent me voir. Et j'ai un restaurant en bas, je peux aller le voir. Je peux aller manger quand je veux. Donc, c'est vraiment ça la logique dans sa tête. C'est vraiment...
Elle se sent en sécurité.
Elle se sent en sécurité.
Puis elle a tout ce qu'il faut.
Exactement. Et ça, on n'a jamais pensé à ça, comme quoi on se rendrait jusque-là. Et on est vraiment très, très contents de ce résultat.
Ben oui, parce que pour les deux fils, là, ça a été éprouvant, là, cette route-là.
C'était quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose pour se rendre jusque-là. Et là, j'espère... que ça s'arrête là, c'est-à-dire...
Ça va rester comme ça un bout de temps, là, que ça va être stable.
Oui, c'est ça.
Ouais.
J'espère que ça va être stable.
Puis elle en est rendue où au niveau de sa maladie, votre mère, aujourd'hui? Parce que là, elle a 84 ans,
Elle a 84 ans, donc elle est encore... ça ne s'améliore pas, là, évidemment. Là, on est conscient de ça. Elle est dans des oublis, des pertes elle a trouvé quand même un peu de répit elle-même. Elle socialise beaucoup là où elle est. Donc, elle accueille des personnes dans son appartement.
Elle a de la visite.
Elle a de la visite de ses amis.
Qui parlent la même langue qu'elle?
Des fois, mais pas tout le temps.
Pas tout le temps.
Ce qui est curieux, des fois, si elle accueille des personnes francophones, elle leur parle en arabe, puis...
On arrive toujours à se comprendre. Hein?
À se comprendre.
Mais c'est vrai,
je comprends pas.
Mais c'est vrai. Moi, je me suis retrouvée en Chine un jour, là, la Chine. Tout le monde parle chinois. Il y a rien de latin dans le chinois, là. Fait que j'avais aucune référence. Ouais. On arrivait à se comprendre par des images, des objets. On arrive à se comprendre quand même. Quand il y a peu d'ouverture, ça prend de l'ouverture, en fait.
Il n'y a plus de barrière, j'ai l'impression. Il y a ça qui était effacé et tant mieux. Et tant mieux, je me dis. Alors, on voit qu'elle est heureuse, là. Elle est vraiment contente. Puis elle nous le dit, elle le verbalise, puis elle le nomme.
Si on parle d'avenir, Habib, là, tu sais, oui, votre maman, bon, elle a l'Alzheimer, elle a eu un diagnostic, donc ça risque pas d'aller en s'améliorant, en fait. Le rythme peut changer. Mais vous, si vous vous projetez dans l'avenir, comment vous le voyez, cet avenir-là? J'ai l'impression, des fois, qu'on le repousse un peu, qu'on pense pas toujours à... On devrait se préparer oui. à... Êtes-vous un peu dans ça?
On est un peu dans ça parce que c'est comme on apprend à apprendre des choses, une chose à la fois.
Un jour à la fois.
Et c'est clair qu'on va, à un moment donné, arriver à un moment où on va dire, OK, là, c'est vraiment... Ça se détériore, par exemple, ou il faut trouver des solutions. Donc, je pense que on est un peu plus outillés, mais pas assez. Et mon frère et moi, on est en train de penser de voir comment
préparer l'avenir.
Ce futur, exactement.
Ouais.
Et évidemment, il y a une partie aussi de ce qu'on vit actuellement avec notre mère qui renvoie à nous. Personnellement aussi, on essaie de voir, OK, qu'est-ce que la vie va nous préserver, nous? Moi et mon frère, on en parle souvent. Et on essaie de suivre tout ce qui est de l'expo, de l'évolution de la médecine, tout ça, là, actuellement. Écoutez, on ne sait pas plus que ça là, pour l'avenir. Mais
peut-être que votre visite aujourd'hui vous rafraîchit la mémoire. Hein, il faut voir venir ces choses-là. Parce que dans le cas de votre mère, ce n'est pas juste la vieillesse. C'est la vieillesse avec l'Alzheimer aussi, qui est quelque chose d'encore plus concret. Hein? Fait qu'il y a peut-être une façon... Il y a maintenant des façons de se préparer aussi à l'avenir. Hein?
Tout à fait.
Peut-être un rappel, en fait, de votre visite aujourd'hui. Quand vous saviez que vous veniez ici, Habib, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous arrivez, vous avez fait un témoignage magnifique, mais tu sais, on parle beaucoup là d'immigration. Ceux qui nous écoutent, il y a des immigrants très certainement là. Il y a plein de monde qui nous écoute, mais par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous aimeriez partager avec les gens qui nous écoutent?
Mais dans notre cas, nous, je me suis rendu compte qu'on s'est, on a bâti un prison en quelque sorte, en disant, il faut pas aller vers les services ou autres, il faut garder notre parent chez nous. C'était comme, on s'est limité avec ça pendant des mois et des mois et des mois, alors que là, on regarde ce qu'elle vit, on dit, voyons donc, pourquoi on l'a pas fait avant? Pourquoi on a attendu tant de mois et de mois alors que elle va bien, elle est vraiment bien servie, puis elle s'est adaptée. Donc c'est vraiment cette capacité d'adaptation qu'elle avait, notre mère, c'était incroyable et on s'attendait pas à ça. Il y a un pan de la personnalité de notre mère qu'on ne le connaissait pas.
C'est intéressant.
Oui, c'est ça.
Vous ne connaissiez pas ça chez votre mère.
On ne le connaissait pas. Et là, sa capacité d'adaptation était phénoménale. Écoute, elle a créé tout un réseau de socialisation autour d'elle, toute seule. Alors nous, on pensait qu'elle va dépérir. C'est tout le contraire qui est arrivé.
Wow.
C'est vraiment tout le contraire.
Mon Dieu, que c'est rare qu'on entend ça.
on s'attendait pas à ça.
Parce que vous savez aussi, il faut être réaliste, tu sais... En Occident, c'est des choix sociaux de société qu'on a fait d'avoir des résidences pour les personnes âgées. On sait souvent et on se fait beaucoup juger au niveau de la culture, au niveau des valeurs, mais en même temps, je trouve ça intéressant d'entendre quelqu'un comme vous qui dit ben non, tu sais, des fois on arrive avec nos croyances, nos valeurs, nos cultures qui sont tellement ancrées dans du béton, mais que si on ouvre un petit peu, on peut vivre des affaires bien différentes. Puis pour vous, c'est de découvrir une femme que vous connaissiez pas en votre mère, en fait, hein?
Exact. Puis après tout, on se dit, mais aller dans un endroit où les intervenants de proximité lui ressemblent.
Parce qu'il parle sa langue, hein? Il y en a aussi dans les services qu'elle a.
Oui, tout à fait.
C'est de trouver le bon endroit.
Exactement. Et donc, c'est des paramètres qu'on n'a pas fait attention. Des angles morts, il y a beaucoup d'angles morts pour nous. Et là, des angles morts, on les découvre tranquillement. Et ça va très bien. Donc, vraiment, on était content et surpris de ce résultat-là.
Et ça va probablement ajouter des années de vie à votre mère?
On le souhaite.
Hein? Bien, clairement.
En santé comme ça, là, on le souhaite, évidemment.
C'est formidable. Merci de votre visite à Bibb. C'est vraiment intéressant. Là, tout le volet culturel, je trouve ça riche là, de découvrir davantage. Puis, ben bravo pour votre ouverture aussi, parce que c'est votre maman dont vous prenez soin.
Oui.
Et vous auriez pu rester très à l'étroit dans votre détresse ou dans votre histoire. Puis au contraire, en fait, ce que je retiens, c'est que l'ouverture peut apporter tellement de bon et de beauté et de grandes choses, en fait.
Et ne pas rester avec ses préjugés face à ce type de service, de réalité ou de maladie.
Merci.
Et c'est vraiment, il y a beaucoup de belles choses aussi.
C'est formidable. Merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Bonne route.
Plaisir. Merci.
Oui, merci. Alors, c'est au tour, et je vais lire son nom parce que je veux pas me tromper, c'est le tour de Lisa Mesrob Shahinyan, qui est la directrice de Haidun, qui est un organisme qui accompagne les proches aidants, et ben les aînés et les proches aidants issus de l'immigration. Bonjour, bienvenue.
Bonjour Marina.
Vous allez bien?
Très bien, vous-même.
Oui, oui, absolument. Je suis très contente de vous accueillir parce qu'il y a tellement de belles choses à dire et à raconter. Première chose que je veux savoir, c'est Haidun, ça veut dire quoi?
Ça veut dire maison arménienne. Donc, Hay, arménien, Dun, maison.
Maison arménienne.
Exactement.
Formidable. Alors, vous, là, vous avez été même parrainée par ce service-là. Vous avez commencé, là, à demander de l'aide, puis vous en êtes devenue la directrice.
Exactement.
Sur une période de combien d'années?
10 ans à peu près.
C'est 11, incroyable. Ça, ouais. Alors, vous savez exactement de quoi vous parlez.
Tout à fait.
Il y a personne qui peut être mieux placé que vous. Alors, elle existe depuis quand? Ce service-là existe depuis quand au Québec?
Haidun a été fondé en 2007 par une personne arménienne, Madame Nairi Tavilian, qui voulait créer cet organisme pour toute personne ayant des besoins dans la communauté, dans l'objectif de créer des personnes qui sont responsables, qui sont bien intégrées dans la communauté québécoise. Et cet organisme a tranquillement évolué, grandi même. Le projet de parrainage collectif a été mis en place en 2009. C'est le projet qui m'a parrainée. Je pense que j'étais la 12e ou la 13e femme à être parrainée par Haidun.
Et vous, vous aviez quel âge à cette époque-là?
Je suis arrivée en 2000.
Ans, c'est ça?
Oui, oui. J'avais 17 ans en 2011.
Et donc, vous êtes arrivée ici de...
De la Syrie, mais je suis née en Irak.
Parfait. Donc, vous arrivez ici avec votre famille?
Exactement.
Et vous savez que ce service-là existe?
Oui.
Alors, il y a quelqu'un qui vous a référé, j'imagine, à ce service-là.
Ben, c'est l'organisme qui nous a parrainés. Donc, ils deviennent nos parents officiellement. C'est eux qui signent les engagements de plusieurs familles. Aujourd'hui, Haidun a parrainé au-delà de 4200 personnes. Puis, à côté du projet de parrainage collectif, mais comme vous l'avez nommé, il y a également des projets pour les aînés et les proches aidants. Donc, c'est les trois volets principaux de l'organisme.
Oui, puis quand on parle de parrainage, oui, l'Arménie, la Syrie, mais l'Ukraine aussi, là, ces dernières années. Il y a les Ukrainiens aussi là, qui
exactement.
Ont vécu
donc, toute personne qui est identifiée étant réfugiée puisse déposer une demande. Maintenant, il y a des défis au niveau de ce programme, mais le programme reste ouvert à toute réfugiée.
Alors, quand on se dit on va cogner à la porte de Haidun...
Exact.
Qu'est-ce qu'on nous offre? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on nous aide? Ça se passe à quel niveau?
Déjà, on vous accueille comme si vous êtes chez nous, dans notre maison. Puis c'est comme ça qu'on s'identifie même à nos bureaux. Puis le bureau est aménagé par des réfugiés parrainés de Haidun pour vraiment créer une atmosphère de chez soi. Après, dépendamment de votre âge, de votre besoin, mais selon les projets qui sont offerts, vous êtes accueillis par des intervenants psychosociaux. Et Haidun va devenir le pont pour ces gens-là, le pont vers le système, le pont vers des services. Puis des fois, on va devenir nous-mêmes, en tant qu'organisme, des proches aidants moraux à des familles qui viennent cogner la porte de Haidun.
Et je trouve ça très beau parce que votre philosophie à vous, mais j'imagine c'est ça Haidun aussi, c'est apprendre, transmettre et redonner.
Exactement. Je le sens, c'est la mission que j'ai personnellement aussi, mais c'est ce que c'est Haidun.
Alors, ça veut aussi dire que ben, vous aviez ça dans votre cœur, c'est clair, mais j'imagine que cet organisme-là vous a accueilli et vous a permis aussi de faire naître ce sentiment-là en vous puis de vouloir redonner aux autres aussi.
Effectivement.
Hein?
Moi, j'ai beaucoup reçu de Haidun. Dès mon arrivée, il y avait des intervenantes qui s'occupaient de moi, de ma famille. J'étais bénévole à Haidun. Ensuite, j'ai travaillé comme adjointe administrative. après pour être membre de CA et maintenant la directrice. Donc, je dis que Haydoun fait partie de mon identité, puis ça, je le crois sincèrement.
Mais vous devez être tellement fière, Lisa.
Je suis extrêmement fière.
Et votre famille aussi doit être extrêmement fière de vous. Je veux dire, on voudrait écrire un scénario, hein, ça serait un film, là. C'est un super film, là.
Je suis prête, Marina.
Oui, oui, mais c'est extraordinaire que vous avez porté cette cause-là, ce service-là, cette dévotion-là, en fait, à votre tour. Ça rend ça encore plus grand. Et je trouve ça intéressant parce que votre mission, en fait, c'est... Puis là, je lis parce que j'ai pris des notes bien précises. Mettre des mots sur des réalités souvent invisibles.
Oui.
Ça veut dire quoi? C'est quoi les réalités invisibles?
Mais déjà, on est une équipe qui, ensemble, on maîtrise 5 langues. Et,
le français, l'anglais?
Arménienne, arabe, turc. Ça nous permet d'être proches à des réalités qui sont invisibles, à des personnes qu'on oublie, à des personnes qui sont sous-représentées ou minorités. Donc, ça nous permet d'être finalement la porte-parole de ces gens-là, de rendre leur réalité visible, de les aider, de les accompagner, de démystifier. Parce que souvent, on va arriver ici, puis l'approche aidance, on sait que c'est lourd pour n'importe quelle personne. Mais la proche aidance en contexte d'immigration, c'est que on connaît pas. C'est d'être proche aidant sans connaître, d'être proche aidant sans les langues, d'être proche aidant sans savoir quels sont nos droits et des fois sans l'accepter. Être proche aidant reste un grand tabou dans plusieurs communautés.
Et aussi, je trouve ça beau parce que dans les différentes cultures, hein, on parle d'immigration aujourd'hui, mais tu sais, la souffrance des aidants. Ce qu'on impose aux enfants aussi, ça, j'ai noté ça. Puis la culpabilité à demander de l'aide. Dans certaines cultures, demander de l'aide, c'est une trahison.
Oui. C'est une honte.
C'est une honte.
C'est une honte.
Ben pour n'importe qui, mais je trouve ça intéressant que il y a des cultures là, précises là, où ça se fait pas, ça, dans la vie, là, demander de l'aide.
Je donne un exemple très, très concret.
Oui.
Mon papa est proche aidant de ma grand-maman.
De sa propre mère.
Et puis, il se sent, c'est la honte pour lui de nous demander à ses petits-enfants de conduire notre grand-maman à son rendez-vous médical. Il prend ça une responsabilité personnelle et puis c'est comme si c'était à lui de porter ça tout seul.
Au lieu de penser, j'ai une équipe autour de moi, parce que c'est ça aussi, hein. Ouais. C'est fou, ça rejoint tellement la mission du balado des proches aidants. L'idée, c'est de sortir les gens de l'isolement, du silence, de la solitude, puis de les encourager, en fait, à aller chercher de l'aide.
Mm-hmm.
Parce qu'on peut pas, porter tout ce que ça symbolise, la proche aidance. Là, on porte beaucoup de chapeaux. Hein, on est médecin, on est infirmière, on est cuisinière, on est chauffeur, on est psychologue, on est tout, en fait.
Tout.
Donc, ça touche à ça aussi.
Effectivement, ça touche à ça, puis ça rajoute des obstacles sur la trajectoire d'un proche aidant. La valise devient plus lourde parce que souvent ce sont les gens que nous accompagnons et puis je m'identifie parmi ces gens-là, c'est qu'on a vécu des traumas de guerre, on a vécu tellement de difficultés.
Il faut jamais l'oublier
puis c'est pas des choses qu'on peut oublier par
choix. C'est dans votre chair, c'est dans votre corps.
C'est dans nos bagages puis on arrive et sur ces obstacles on rajoute le poids de proche aidance. Donc ça devient
d'immigration.
L'immigration.
Et ultimement, de proche aidance, parce que des fois, c'est toute la famille qui arrive.
Oui.
Les parents vieillissent, tombent malades, et la réalité de la vie, quoi.
Oui,
c'est le cercle de la vie. Hein?
Moi, je vois les enfants immigrés avec leur famille, je les vois comme des proches aidants administratifs. Parce que ces enfants vont traduire, ces enfants vont accompagner, vont démystifier le système, vont expliquer à leurs propres parents comment l'école fonctionne, l'enseignement, l'éducation, le système médical. Donc,
c'est une charge énorme.
Au moment d'arriver, déjà, on va porter ce poids, de devenir proche aidant. Et puis, c'est des couches qui se rajoutent.
Exact. Parlez-moi du deuil au carré. La mort d'un proche réveille toutes les pertes du déracinement.
Je vais vous parler de ça à travers un exemple. Il y a quelques mois, nous accompagnons une femme proche aidante et immigrante que Haydoun a parrainée. Cette femme est arrivée avec sa mère. Donc, pour elle, toute son trajectoire, sortir de l'Irak, arriver en Syrie, être immigrée dans un autre pays, ensuite arriver à Montréal, sa mère était présente. Donc, pour elle, son vécu est porté à travers elle et sa mère.
Puis, c'est indissociable. Là.
Exactement. Oui. C'est une seule identité. Puis pour elle, Montréal, c'est elle et sa mère. Récemment, il y a trois mois, elle a perdu sa maman. Et puis, cette femme est venue à Haïdoun me dire, c'est comme si je viens d'arriver à Montréal. Je ne reconnais plus cette ville. Pour moi, tout est nouveau. Elle a perdu son repère émotionnel. Elle a perdu la personne avec qui elle partageait des souvenirs.
La langue, la culture.
La langue, la culture. Tout. Ses souvenirs d'enfance, son vécu, son père, ses frères, sa sœur. C'est toutes des souvenirs qui étaient portés par deux personnes. Et maintenant, elle est seule à les porter. Seule sur des terres étrangères. Puis là, c'est encore plus... étrangère pour elle.
Parce que elle doit continuer sa vie, mais elle a perdu ses repères.
Exactement.
Je trouve ça très émouvant, là, ça m'émeut énormément d'entendre ça. Mm-hmm. Parce qu'on pense pas à ça dans l'immigration.
Parce qu'il y a, oui, il y a le deuil d'avoir perdu une personne chère.
Ta mère.
La mère. Mais immense. Au-delà de ça, c'est tout son vécu. C'est son pays d'enfance, son pays d'origine, c'est les langues, c'est les souvenirs. Et puis, ça, c'est extrêmement lourd.
Et comment vous l'aidez, cette femme? Est-ce qu'elle vient à des rencontres?
Exactement.
Est-ce que vous l'accompagnez? Vous essayez de l'accompagner au quotidien, j'imagine?
Donc déjà, avec nos intervenants psychosociaux, on offre du soutien individuel. Donc, elle est rencontrée individuellement. Elle est invitée également à participer à des soutiens de groupe, des ateliers de thérapie pour les personnes endeuillées, pour les personnes précédentes endeuillées. Et puis, elle est accompagnée tout au long de son trajectoire. Que ça soit avant quand elle était proche aidante ou même le après. Puis on a même une personne responsable pour tous les dossiers de clinique, donc des cas qui sont plus complexes, qui nécessitent un soutien plus profond, mais l'accompagnement est là pour ces gens-là.
Puis donc on pourrait dire que Haïdoun, ça devient sa famille.
Oui.
Parce qu'elle en a pas d'autres, là.
Mm-hmm.
Et je trouve ça très touchant aussi parce que vous dites... Le but, ultimement, c'est l'expérience migratoire n'efface ni la dignité, ni la capacité d'agir.
Ça, c'est la mission première de Haïdoun, c'est de servir, d'aider la personne dans sa propre dignité. C'est de ne pas effacer son vécu, mais de l'accompagner à travers ce qu'elle vit.
Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, puis je suis certaine qu'ils sont nombreux, puis vous, tu sais, vous êtes bien placée, Lisa, parce que vous avez connu la guerre.
Oui.
Vous continuez à le porter, ça, dans votre corps, dans votre cœur.
Ça s'efface pas, Marina.
Ça s'efface jamais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui viennent d'arriver, là? Il y a des arrivants à toutes les semaines ou à tous les mois ou, puis ces dernières années, ça a été tellement chargé tout ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Comment on leur donne espoir, en fait?
De ne pas hésiter de demander de l'aide, même si c'est une phrase qu'on entend beaucoup, puis même si ça sonne cliché, mais demander de l'aide, et une force.
Ça prend beaucoup de courage.
Exact.
Mais c'est ça, c'est une force de demander de l'aide, puis de nommer et de dire qu'on a besoin d'aide, c'est immense, c'est très grand.
Puis il faut être patient, il faut être très, très patient, parce que je me base sur les expériences que je vois, puis ma propre expérience, ça prend du temps pour sortir du mode survie. Moi, ça m'a pris 5 ans.
Toi?
Moi, ça m'a pris 5 ans.
Ah oui. Hein.
Peut-être que mes parents sont encore dans un monde de survie, puis peut-être que d'autres familles, ça va leur prendre plusieurs années.
Qu'est-ce que ça veut dire, Lisa? Ça se vivait comment? Ça veut dire quoi pendant 5 ans, j'ai été en mode survie? Ça se traduisait comment dans ton quotidien?
Ça se traduit, c'est que tu te sens jamais que t'es chez toi.
Que t'as jamais une place, t'es pas ta place.
Exactement. T'es là, tout est temporaire. Courir à apprendre une langue, courir pour trouver un emploi, payer ses factures, comprendre traduire le système, essayer de faire des amis, trouver des repères, trouver des gens à qui on peut s'identifier. Faire confiance. Avoir un réseau. Identifier qui sont mes facteurs de protection. Qui est mon filet. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et des fois, malheureusement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir de ce mode.
Vous dites que les jeunes deviennent des proches aidants moraux avant même la maladie. Parce qu'on associe toujours la proche aidance à la maladie. Mais ça, je trouve ça intéressant, là.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Je vais revenir à l'exemple que j'ai donné. C'est qu'on arrive, on porte... Le poids, étant donné, mais on va être mieux intégré, on est à l'école, on va plus aisément apprendre la langue, on va être des accompagnateurs à nos parents.
Déjà là.
Déjà là. On parle pas de la maladie.
Tout à fait. Ouais, ouais. C'est vous qui leur apprenez à s'intégrer. C'est vous qui leur apprenez comment la société fonctionne,
à démystifier le système, à connaître, à savoir.
À les rassurer.
Exact.
Aussi beaucoup, hein. Mm-hmm. Il y a quelque chose d'intéressant aussi parce que vous dites que la perte d'un proche, quand ça arrive, le déracinement est encore plus grand.
Ouais.
Hein, on le disait, cette dame-là, que mm-hmm. sa maman finalement est décédée, là. C'est comme un double déracinement, en fait.
Oui. Parce qu'on vient arracher une identité qui faisait partie de toute sa vie. Et puis, le déracinement, c'est très, très fort. Marina, je vis encore avec ce sentiment-là. Et même personnellement, je le vois à travers les yeux de nos familles. On va être tout le temps des personnes qui cherchent à trouver, identifier nos racines.
Sa place.
Tranquillement, on va commencer à le faire, dépendamment de ce qu'on vit, dépendamment dans quelles conditions on vit. On va commencer à déposer nos racines, à créer des nouvelles racines, mais on va être toujours à la recherche d'eux.
Est-ce que, je parle de vos parents, toi tu étais plus jeune, mais quand même, vous aviez 17 ans quand vous êtes arrivée. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, vos parents, votre papa, votre maman, sont intégrés? Est-ce qu'ils ont encore la nostalgie de leur pays, j'imagine?
Oui.
Puis si vous regardez la caméra, là, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux nouveaux arrivants, aux immigrants, à ceux qui sont proches aidants de différentes formes, là?
J'ai envie de dire, faites confiance à votre bagage personnel. Parce que c'est vrai, des fois, on a une image négative de l'immigration, mais nos bagages sont extrêmement riches. Donc, il faut faire confiance à ça. Puis, autant il y a de la place à recevoir, mais il y a énormément de la place à redonner, à enrichir la communauté. Donc, il faut pas avoir peur. Il faut pas hésiter.
Partager, hein.
Partager.
C'est redonner. Tellement riche. Redonner. Mm-hmm. Merci, Lisa.
Merci, Marina.
J'aurais continué à jaser avec vous, là. Bravo.
Merci.
Bravo pour votre parcours. C'est
Merci beaucoup.
Extraordinaire.
Merci.
Merci infiniment.
Très plaisir.
C'est déjà la fin, ben oui, de cet épisode des Histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Je tiens à remercier mes invités Yannick Trousdale, Habib Elage et aussi Lisa Mesrob-Shahinyan pour votre générosité, votre courage aussi de partager avec nous vos histoires qui sont si personnelles et si touchantes. Et sachez que vos témoignages nous rappellent que chaque parcours de proche aidant est unique, mais que personne ne devrait le traverser seul. Et il y a des services, rappelez-vous. Si à l'écoute de ces témoignages, vous vous êtes reconnu ou avez reconnu des proches de votre entourage, ben n'hésitez pas à consulter la page de conseils pratiques sur le site de l'appui.org ou contactez aussi Info Aidant par téléphone ou 1-855-852-7784 ou encore par courriel info-aidant@l'appui.org. Et sachez que les conseillères et les conseillers d'Info Aidant sont là pour vous écouter, pour vous soutenir et vous orienter aussi vers les ressources disponibles dans votre région. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.